idoles, que ce soit ceux du temple ou ceux qui officiaient dans tous les hauts lieux sur tout le territoire de Juda. On retira aussi du temple un poteau sacré, le genre de... c'est une représentation, pense-t-on, de la déesse de la fertilité, pour qu'il soit brûlé loin de Jérusalem et ses cendres enterrées. Après quoi, c'est à la prostitution qu'on va s'attaquer. Il y avait des petites maisons, en fait, dans l'enceinte du temple, où les femmes se tenaient et tissaient des vêtements pour les divinités. Et Josias fit donc détruire toutes ces maisons de prostitution. Ensuite, il entreprit de souiller, dit le texte, c'est-à-dire de rendre inutilisables tous les lieux qui avaient été consacrés au culte des idoles, partout sur le territoire. Partout, ils furent détruits et saccagés pour ne plus être utilisés. Et parmi tous ces hauts lieux se trouvaient aussi les lieux consacrés au culte de Moloch. Vous connaissez, c'est là où se pratiquaient les sacrifices humains, le plus souvent des sacrifices d'enfants. Eux aussi donc disparurent, ainsi que toutes les pratiques magiques et la nécromancie. La vraie réparation du temple avait commencé.
Alléluia, 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 alléluia.
Le roi Josias, auquel nous nous intéressons aujourd'hui, vient donc d'entamer un grand nettoyage religieux dans tout le territoire de Juda, en éliminant toutes les traces d'idolâtrie. Or, beaucoup de ces lieux de culte avaient été mis en place par les rois de Juda, et le texte va jusqu'à attribuer certains d'entre eux à Salomon lui-même. Je vous lis au chapitre 23, verset 12. « Le roi démolit des autels que des rois de Juda avaient élevés, ainsi que les autels que Manassé avait bâtis dans les deux parvis de la maison du Seigneur. Il les enleva de là, les jeta les cendres dans le torrent du Cédron. Il rendit inutilisables les hauts lieux qui se trouvaient en face de Jérusalem, ceux que le roi Salomon avait construits en l'honneur d'Astarté. » Donc c'est vraiment, on se rend compte que l'idolâtrie avait pris de la place dès le règne du roi Salomon. Il faut se rappeler que quand même qu'il avait épousé 300 femmes de toutes les petites nations alentour, et que en bon époux, il sacrifiait au dieu de ses femmes. C'était une manière pour lui de faire la paix avec les gens autour, mais au sacrifice de sa propre religion. Donc c'est bien, en fait, dès le début, c'est tout le système monarchique qui n'est pas à la hauteur des attentes de Dieu pour son peuple. Mais Josias, lui, prend les choses en main et il va pousser la purification et la réforme à son maximum, essayant d'éradiquer toute forme religieuse non conforme à la loi. Et il va élargir son épuration en débordant, même jusque dans les territoires du Nord. Il va avancer jusqu'en Samarie pour détruire des autels, et là, on est sûr, pour tuer des prêtres. Et c'est seulement quand il commence à être satisfait de son grand nettoyage qu'il décide de faire célébrer la Pâque du Seigneur. Mais cette célébration sera maintenant centralisée en une immense cérémonie au temple à Jérusalem, et non plus laissée à des initiatives éparpillées partout dans les familles ou les petites communautés. Il prend cette décision qui est une véritable reprise en main religieuse centrée sur Jérusalem. Lisons au chapitre 23, verset 21. « Le roi donna cet ordre à tout le peuple, célébrez la Pâque du Seigneur, votre Dieu, selon ce qui est écrit dans le livre de l'Alliance, car on n'avait pas célébré une telle Pâque depuis le temps où les juges avaient gouverné Israël. » Donc on se rend bien compte que dès que la royauté a démarré, l'oubli des rites, comme la Pâque, était déjà là. Il y a dans ces paroles de Josias une forme de constat d'échec de la royauté qui n'a pas su préserver ce qui aurait dû être essentiel, à savoir la relation à Dieu. Alors, Josias va-t-il redresser la royauté grâce à tous ses efforts? Lisons au chapitre 23, donc deuxième livre des rois, à partir du verset 25. Il n'y a pas eu avant lui un roi qui, comme lui, revint au Seigneur de tout son cœur, de tout son être et de toute sa force, selon toute la loi de Moïse. Et après lui, il ne s'en lèvera pas de semblable. Toutefois, le Seigneur ne revint pas de l'ardeur de sa grande colère qu'il avait enflammée contre Juda à cause de toutes les offenses que Manassé avait commises contre lui. Le Seigneur dit, « Même Juda, je l'écarterai loin de ma présence, comme j'ai écarté Israël. Je rejetterai cette ville que j'ai choisie, Jérusalem, et la maison dont j'avais dit, là sera mon nom. » Voilà, des paroles très dures, mais quand on connaît la fin de l'histoire, des paroles très réalistes, puisque c'est comme ça, effectivement, que tout se termine dans la période des rois. Ce sera d'abord la chute du Nord, les 10 tribus, la chute d'Israël et leur déportation, et ensuite le même sort pour Juda, les tribus du Sud, la prise de Jérusalem, et leur déportation aussi, parce que les rois de Juda qui succéderont à Josias seront de plus en plus mauvais, jusqu'à conduire à la disparition totale de la monarchie et donc l'exil à Babylone. Voilà, alors en attendant, que se passe-t-il avec Josias? A-t-il conscience de la fragilité à long terme de toute sa réforme? Puisque Dieu lui avait promis, par l'intermédiaire de la prophétesse Hulda, qu'il pourrait avoir une mort paisible avant toutes les catastrophes annoncées et qu'il ne verrait pas l'effondrement final, n'aurait-il pas pu simplement profiter d'une vieillesse heureuse en savourant l'accomplissement de la restauration religieuse? Eh bien non, c'est pas du tout ce qui va se passer. Josias apprend que l'Égypte est en train de réaliser une coalition avec l'Assyrie au nord pour former un bloc militaire plus fort afin de combattre les invasions des Babyloniens qui sont en train de venir de l'Est. Les armées égyptiennes vont donc remonter le long de la côte méditerranéenne pour rejoindre au nord les Assyriens et donc traverser partiellement les territoires d'Israël. Mais alors, au lieu de les laisser passer sans rien dire, hein, d'ignorer cette coalition qui, à mon avis, aurait pu être utile finalement contre Babylone, au contraire, avec sa toute petite armée, parce que c'est quand même un tout petit pays, Josias va aller à la rencontre de Pharaon avec l'idée de lui barrer le passage. Je ne sais pas ce que Josias espérait de cette manœuvre militaire. Pour ma part, je trouve totalement absurde et insensé. Toujours est-il qu'à peine le Pharaon aperçoit-il Josias, qu'il le tue. Et voilà, là s'arrête la guerre d'intervention contre l'Égypte. Les soldats chargent son corps sur un char et tout le monde revient à Jérusalem où Josias va être enterré en paix auprès de ses pères. Il me semble qu'il y a une mort tellement inutile que je me dis que Josias allait peut-être en fond volontairement vers sa mort pour ne pas voir que toute son œuvre de réforme n'allait en fait déboucher sur rien du tout parce qu'elle était arrivée trop tard dans l'histoire de la royauté. Il aura eu simplement pour lui la satisfaction d'être reconnu par Dieu comme le seul roi qui s'est montré digne de succéder à David, si on ne tient pas compte, bien sûr, du terrible échec de sa mort. En tout cas, son fils Joachaz, qui va lui succéder, et le texte nous dit, il fit ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Donc, tout de suite, tout s'effondre. Et au bout de 3 mois, d'ailleurs, il fut fait prisonnier par le Pharaon, qui a profité de la situation pour s'approprier tout le territoire, bien entendu. Et ainsi s'enclenchent tous les mécanismes politiques et militaires qui vont conduire finalement à la conquête babylonienne et à la disparition d'Israël et de Judas. Ce qui restera de Josias, c'est finalement un recentrage vigoureux sur le Dieu unique et la fin des multiples petites religions locales, au point qu'on a pu dire que Josias devrait être considéré comme le vrai fondateur du monothéisme. On peut dire en partie que c'est vrai, en tout cas, il a largement contribué à sa consolidation à travers les âges. Et maintenant, il est temps de nous quitter. Je vous dis au revoir, chers auditeurs, et à très bientôt.
Chroniqueur de Radio Présence, chaque matin au service de votre quotidien.
Alors l'image de l'assureur, elle a, semble-t-il, pas mal souffert pendant la période du Covid. Et aujourd'hui, l'image de l'assureur est en train de remonter doucement.
Cet internet rapporte à la mafia et au marché du crime 10 milliards d'euros aux États-Unis et 200 millions en France.
La rentrée littéraire est toujours aussi abondante. Heureusement, il y a des auteurs prolifiques qui chaque année nous honorent d'un nouvel ouvrage.
Bon, ça y est, nous avons décidé de faire notre deuxième. Ça stresse un peu, car comment notre plus grand balcon.
Le week-end dernier, je suis partie avec deux vieilles amies au cœur attentif et joyeux. Alors, je rentre toute pétaradante de liesse et remplie de ces partages.
On se dit souvent que les habitudes nous ankylosent, mais elles ont du bon, je vous assure, ces habitudes.
Les chroniqueurs de Radio Présence, chaque matin au service de votre quotidien.
Plus jamais ça. Plus jamais vivre loin de toi, plus jamais seul. Wow, wow, wow. Automne sévère, mon univers s'écroule comme une simple feuille à terre. L'hiver prend place, mon pouce se glace sous des flocons. Lourde confusion, vivre ou mourir, il faut choisir. Quoi qu'il arrive, laisse-moi te dire, plus jamais seul, plus jamais vivre loin de toi, plus jamais seul. Au printemps, mon âme reprend un second souffle, un nouvel élan. Voici l'été, il faut rêver, la tête dans le ciel bien étoilé. Je ne serai plus jamais seul, plus jamais vivre loin de toi, plus jamais seul. Wow, wow, wow. Plus jamais seul, plus jamais vivre loin de toi, plus jamais seul. Wow, wow, wow. Plus jamais seul. Jamais, plus jamais.
Présence, 18h. Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle série de la semaine que je vous invite à suivre. Rien n'est tabou dans les émissions des clés pour vivre. Cette semaine, on aborde le suicide et la prévention du suicide. Hein, et puis, vous pourrez découvrir au fil des jours différents intervenants. Et témoin et surtout au micro l'association La Lumière de Raphaël qui avait été fondée par le père Éric Lestage, auteur d'un livre paru il y a quelques mois, juste après la mort du père Éric Lestage. Ils voulaient mourir, ils ont éclairé ma vie, aux éditions Salvatore. Je reçois dans première rencontre, ce premier épisode de la semaine, la présidente de l'association La Lumière de Raphaël, et c'est Lali. Bonjour Lali.
Bonjour.
Alors vous êtes présidente de l'association, c'est toute une histoire.
Oui.
C'est l'histoire aussi du père Éric Lestage, ce prêtre qui est décédé, qui était aussi votre ami depuis 1992, fondateur de la Lumière de Raphaël et puis aussi de ses pèlerinages et de ce pèlerinage qui est devenu depuis, en 20 ans, ça a fait du chemin, pèlerinage national de prévention du suicide. Nous le savons bien et vous le savez que trop bien, Lali, le suicide est un thème douloureux, difficile à aborder, mais n'ayons pas peur de parler ouvertement, paisiblement, puis dans l'espérance de ce thème qui perd des vies parfois. Donc sachons en parler et peut-être en témoigner, et c'est votre cas. Donc dans ce premier épisode, je vais vous demander très simplement, Lali, de partager un peu votre propre expérience. Aujourd'hui et demain, on vous retrouvera et merci.
Alors moi, mes premières pensées suicidaires ont été dans l'enfance. Donc en fait, moi je me souviens presque pas. J'ai très peu de souvenirs où je n'avais pas envie de mourir. Donc en fait, c'est quelque chose qui habite en moi de façon très très prégnante. Avec plus ou moins d'intensité, il y a des périodes plus calmes, Dieu merci, et je les savoure, et je suis dans une de celles-là aujourd'hui, donc je savoure d'être à Lourdes et de pouvoir être à peu près bien et pas trop tourmentée par l'envie de mourir, parce que c'est ça, la souffrance nous assaille tellement qu'on ne voit plus de solution. On cherche beaucoup les solutions. Et malheureusement, on en voit plus qu'une à un moment. Tout se rétrécit. C'est comme dans un entonnoir. On cherche. Et puis à la fin, on ne trouve plus qu'une seule solution. Le goulot d'étranglement. C'est le suicide. Et alors, certains me disent, mais c'est pas une solution. Oui, mais quelquefois, c'est la dernière et c'est la seule que l'on trouve. Et je pense que c'est important d'avoir des personnes à côté qui nous disent « Nous, on est là et on restera à côté de toi, quoi qu'il arrive. » Et c'est un peu ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé avec le père Éric Lestage. Il m'a accompagnée pendant 31 ans. Pendant 31 ans, j'ai pu lui dire presque tous les jours que j'avais envie de mourir. Et il me disait « Je suis là. » Je suis là et je suis ton ami et je resterai près de toi. Malgré les gestes que tu poses, malgré tout ce que tu penses de toi, je suis là et je resterai près de toi.
Le père Éric n'était pas formé, n'était pas spécialiste de ce sujet autour du suicide. C'est avec vous, c'est vous qui l'avez quelque peu accompagné. Racontez-nous un peu cette histoire.
Alors en fait, en 92, je faisais une marche pascale sur les... je suis landaise, sur la côte landaise, sur le sable. Et un jour, c'était très compliqué. Le deuxième jour, c'était très compliqué. Et je me suis arrêtée et j'ai commencé à me dire, c'est trop dur. Et là, à côté de moi, l'Esprit Saint certainement l'a mis là, c'était Eric. Et je lui ai dit, c'est trop lourd, j'en peux plus. Il me dit, t'en peux plus, t'es fatiguée. Non, je lui ai dit, j'en peux plus de vivre. Et là, il s'est arrêté. Il a dit, il faut qu'on parle. Et donc, on a commencé à parler, il m'a posé des questions. Et ça, je crois que c'est très important, ne pas avoir peur de poser des questions. Ah bon, t'as plus envie de vivre? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que ta vie est trop lourde pour être vécue? Donc voilà. Et lui pensait avoir la vocation pour aller auprès des SDF. Et en fait, il m'a dit, tu as réorienté ma vocation vers les personnes en situation suicidaire. Donc j'ai été la première personne qui l'a écouté, malheureusement d'une longue liste derrière. Puis il a été se former quand même à Paris, puis à Lyon, sur la prévention du suicide.
Et on peut découvrir, et moi je vous conseille, chers auditeurs, si vous connaissez autour de vous des personnes qui traversent des grands moments de turbulence, des tsunamis, des désirs de mort au fond, de dépression profonde, lisez ce livre que le père Lestage a eu le temps d'écrire avant de mourir. Ce livre est paru aux éditions Salvator, il s'intitule « Ils voulaient mourir, ils ont éclairé ma vie ». C'était un prêtre qui avait en fait tout donné pour ces personnes, au fond, avec un désir de non-vie. En fait, c'est un désir de non-vie où on veut, quelque part, supprimer cette souffrance qu'on n'explique pas toujours.
Alors, c'est très rare que
Éclairez-nous.
C'est très rare qu'il y ait un vrai désir de vie, de mort. Lapsus intéressant.
Oui, c'est vous qui l'avez dit. Hein. Oui.
Donc c'est très rare qu'il y ait un vrai désir de mort. Ça arrive, mais c'est pas le plus fréquent. Le plus fréquent, c'est quand même une accumulation, un millefeuille de souffrances qui s'accumule. Et à la fin, on se dit non, c'est plus possible. Il n'y a plus d'autre solution que la mort. Mais la mort vient comme solution pour arrêter la souffrance, pour arrêter la vie, pour arrêter la souffrance. Mais en fait, il y a un grand désir de vivre, mais de vivre autrement, avec moins de souffrance.
Alors, expliquez-nous, vous avez rencontré en 92 le père Eric, avec des idées sombres suicidaires. 30 ans après, vous vivez toujours, au fond, ce combat, cette bataille. Qu'est-ce qui explique que vous ne soyez toujours pas sorti, permettez-moi d'être aussi direct, de ces idées un peu sombres, ténébreuses, et parfois avec un désir de supprimer cette souffrance?
Alors, il se trouve que moi, je suis atteinte par la bipolarité. Et donc, en fait, dans la bipolarité, suivant les formes que ça prend, on peut avoir des idées suicidaires qui reviennent périodiquement. Et moi, c'est mon cas. Donc, et je disais souvent à Eric, j'aimerais en être libérée. Il me disait, peut-être qu'un jour t'en seras libérée, peut-être que tu n'en seras jamais libérée. L'important, c'est que aujourd'hui, tu es là. Tu es vivante.
À quel moment avez-vous diagnostiqué que vous étiez porteur de bipolarité?
Alors, à l'âge de 24 ans, on m'a diagnostiqué la bipolarité. Ça a été un tsunami pour moi. Ça a été très compliqué à accepter. J'ai lu beaucoup pour savoir ce que ça voulait dire, qu'est-ce que ça impliquait dans ma vie. Et puis, pour moi, ce qui est très important, c'est la double alliance, l'alliance thérapeutique et l'alliance spirituelle. Pour moi, ce serait aberrant de ne pas aller voir mon infirmière psychiatrique ou ma psychiatre qui m'aide vraiment à traverser le quotidien. Parce que le quotidien est compliqué. Tout est difficile quand on est bipolaire. Les pulsions, les non-envies de vivre, les hauts, les bas, on est ballotté et on n'y peut pas grand-chose. Donc le traitement est très important, mais aussi l'alliance thérapeutique. Comment je fais pour bien dormir, pour bien manger, pour avoir un rythme qui soit cadrant. Voilà, ça c'est très important. Et puis l'alliance spirituelle, bien sûr. Moi, je ne conçois pas de ne pas recevoir le sacrement des malades régulièrement, parce que j'ai besoin de cette force pour traverser ma maladie. Alors, je sais que certains disent qu'il faut le recevoir qu'une fois par épisode de maladie, mais la bipolarité, ça veut dire que je vais être malade toute ma vie, donc le recevoir qu'une seule fois pour ça. Eric et moi, on pensait que c'était important de le recevoir régulièrement, pour retrouver cette force de la grâce du sacrement de traverser cette maladie.
31 ans d'accompagnement avec le père Eric Lestage. Permettez-moi de vous interroger. Comment avez-vous traversé l'épreuve après 30 ans de la mort du père Eric?
très compliqué. Ça n'a pas été simple.
Mais vous êtes là aujourd'hui. Vous
mais
êtes
je
présidente.
Suis là. Je suis ouais. présidente. Voilà, c'était sa volonté. Avant son décès, il a confié la direction à Patrick Lepaud, médecin diacre. Et il m'a confié la présidence de l'association et les enseignements. Il m'a dit, c'est important que tu fasses les enseignements pendant le pèlerinage. Parce que je veux qu'il y ait un témoin qui soit dans les ténèbres, qui nous parle des ténèbres. C'est trop facile de parler des ténèbres des autres. Il faut entendre les ténèbres que la personne traverse. Donc il m'a l'année dernière, je me suis retrouvée à son enterrement à avoir 3 enseignements de plus à faire en 1 mois et demi. Donc ça a été un peu lourd, un peu compliqué, mais je pense que la grâce a été là. Et donc cette année, je me suis dit, oh, je ne vais pas faire les enseignements cette année. Et puis les autres de l'association m'ont dit, mais non, c'est à toi de les faire. C'est toi qu'on veut entendre. Voilà, donc...
Et entre autres, donc j'ai effectivement, je n'ai pas donné de date, mais les auditeurs qui vous découvrent, Lali, à travers aussi cette association, La Lumière de Raphaël, j'informe que fin août, tous les ans, voilà, depuis 20 ans, il y avait un pèlerinage de prévention des suicides, mais depuis 2023, c'est un pèlerinage qui est devenu national pour la prévention du suicide. Donc le thème, cette année était le thème à partir de la parole de Saint Jean, j'ai soif. Vous avez d'ailleurs donné, puisque j'ai le programme devant mes yeux, un enseignement sur le combat de la pensée.
Oui, alors c'est
les
la différence
ténébreuse. Hein.
Voilà, ouais. C'est la différence entre le combat spirituel dont nous a parlé Don Anne Guillaume, qui est chapelain à Lourdes, et le combat psychologique.
Et là, on va en parler de ce combat un peu psychologique de la pensée, si vous voulez bien, Lali,
oui.
Dès demain, puisqu'on est dans cette série des clés pour vivre, et puis qu'on vous découvre. Et en vous découvrant, on découvre l'association La Lumière de Raphaël, lalumièredeRaphaël.fr, c'est le site de l'association. Et puis, je vous invite aussi, chers auditeurs, à découvrir aux éditions Salvator ce livre du père Éric Lestage, qui avait finalement répondu à cet appel d'accompagner ceux qui étaient dans ces profondes ténèbres avec des désirs de mort, des désirs suicidaires. Et ce livre, s'ils voulaient mourir, ils ont éclairé ma vie. Une autre information tout de suite, c'est un numéro de téléphone, le 31 14. On peut appeler à tout moment, 7 jours sur 7. Lali, à demain, même lieu et même heure.
Merci.
Clés pour vivre, l'intégrale.
C'est un deuxième épisode de cette série autour de la prévention du suicide, en particulier aussi avec la mise en lumière de l'association La Lumière de Raphaël. Et ça tombe bien, je reçois dans ce deuxième jour la présidente qui se prénomme Lali. Bonjour Lali.
Bonjour.
Alors vous apparaissez aussi avec le prénom de Sandrine, et ça c'est pour
oui.
donner un petit peu le goût aux auditeurs qui découvrent l'association La Lumière de Raphaël. Il y a ce livre qui est précieux avec plein d'exemples d'un prêtre que vous connaissez bien, que vous avez bien connu pendant 31 ans, le père Éric Lestage. Ce livre a été écrit en 2023, il est mort en juillet 2023. Il a missionné, on peut dire, pendant près de 20 ans autour des personnes avec ses idées de mort, de ses idées de ténèbres, c'est des idées aussi d'en finir avec la vie, et on parle du suicide. Le titre du livre, Ils voulaient mourir, ils ont éclairé ma vie, et c'est un prêtre qui s'est engagé sur cette prévention du suicide avec depuis 20 ans, mais surtout en particulier depuis 2 ans, ce pèlerinage qui est devenu un pèlerinage national de prévention du suicide. Donc c'est au titre aussi de la prévention du suicide. Et puis vous-même, Lali, que je vous reçois dans votre témoignage. Vous nous avez déclaré aussi que vous avez été diagnostiquée à l'âge de 24 ans, bipolaire.
Oui.
Ce qui peut expliquer aussi ces épaisses ténèbres, ces désirs de non-vie. Comment avez-vous vécu le diagnostic et comment avez-vous accepté la maladie jusqu'au traitement et finalement l'accompagnement avec ?
Alors ça n'a pas été toujours simple. parce que effectivement accepter à 24 ans que on ne pourra pas travailler, que avoir une famille ce sera compliqué, que enfin voilà, que toute la vie est chamboulée, c'est très difficile. Heureusement que j'étais bien accompagnée par ma famille, par Eric, par d'autres amis, par les médecins également. Je crois que c'est très important de rencontrer une équipe thérapeutique avec laquelle on peut faire alliance et non pas s'opposer. Voilà, parce que c'est important qu'ils nous expliquent notre maladie. On a besoin de comprendre ce que l'on vit. On vit des hauts, on vit des bas. Et comment ça se fait qu'il y a des moments j'ai envie de manger la vie et de vivre à 200%
et de croquer la vie
à pleines dents, et à d'autres moments ben je suis au fond du trou et plus rien n'existe et tout me paraît noir. Voilà, ces changements d'humeur qui sont très très déstabilisants, que si on nous explique pas, on comprend pas et on peut partir dans des culpabilités énormes.
Et vous avez compris au bout de combien de temps de cheminement, diagnostiqué à l'âge de 24 ans?
Je suis toujours en train de découvrir parce que c'est toujours difficile de savoir qu'est-ce qui est de l'ordre de ma personnalité, qu'est-ce qui est de l'ordre de la maladie, qu'est-ce qui est de l'ordre du spirituel. Donc voilà.
Avant, vous me disiez, vous mettiez tout sur le spirituel.
Oui. Avant, je mettais tout sur le spirituel, peut-être par facilité, peut-être parce que j'avais...
Par déni.
Par déni aussi. Je pense que ça devait être aussi pas mal... Le déni était pas mal puissant face à la maladie. Donc voilà. Et je... En fait, le fait de différencier, ça nous permet de mieux comprendre. Parce que... Et puis... Puis la vie, elle n'est pas simple, elle n'est pas linéaire. Donc c'est important d'apprendre à se connaître, d'apprendre à s'accepter, parce que pour s'accepter, il faut se connaître. Et pour s'aimer, il faut apprendre à s'accepter et à se connaître. Voilà, c'est des cheminements comme ça.
Cheminement de réconciliation, on imagine, oui, aussi, au bout.
Bien sûr. Bien sûr, parce que c'est très difficile d'accepter qu'on soit malade. On en veut à Dieu, on en veut à soi, on en veut à sa famille, on en veut à la terre entière.
Qu'est-ce que vous avez envie de dire là, maintenant, dans cette série des clés pour vivre, pour donner en fait, vivre, survivre parfois à des auditeurs peut-être confrontés actuellement à une crise suicidaire ou à un proche qui est allé jusqu'au bout du suicide?
Alors pour moi, ce qui est très important, c'est ce que me disait Eric, c'est...
Il vous a dit beaucoup de choses, hein, le père.
Oui, ah ben, en 31 ans...
Oui, alors qu'est-ce qu'il disait? Qu'est-ce que vous le disiez?
Il nous dit... quelquefois, on relisait un peu notre amitié et notre cheminement ensemble. Et il me disait, voilà, ben, tu vois, oui, t'es toujours traversé par tes ténèbres, mais tu es là, et tu es toujours en vie. Et ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans qu'on se bat ensemble, et que tu es toujours là pour l'instant. Et ça me fait un peu bizarre de savoir que lui n'est plus, et moi je suis toujours là, avec mes ténèbres, à me battre.
Qu'est-ce qu'il vous a laissé en testament à vous, en particulier à Lali? Parce que si le père Eric a écrit, le père Eric a missionné pendant plus de 20 ans, c'est parce qu'il avait rencontré Lali.
Oui, ouais. Je crois qu'il m'a laissé beaucoup de paroles. Parce que il parlait beaucoup et
il écoutait beaucoup,
mais il parlait beaucoup. Il avait beaucoup de mal à se taire et j'ai essayé de lui apprendre un peu à se taire et il a appris à se taire. Mais c'est vrai qu'on échangeait beaucoup et je pense qu'il m'a laissé aussi une envie de mettre des barrières contre le suicide. Voilà. Il m'a appris à mettre des barrières dans ma vie. Et donc, par exemple, le fait d'être catéchiste, je me dis, tu as des enfants qui comptent sur toi, donc demain, tu vas te lever, que t'ailles bien ou que t'ailles pas bien, c'est pas grave, tu vas te lever et tu vas te préparer et faire le catéchisme à ces enfants avec le sourire. Et tu vas leur parler de l'amour de Dieu.
J'ai bien dit que vous étiez présidente de l'association La Lumière de Raphaël. Qu'est-ce qui vous mobilise autant, aussi avec parfois ces périodes de turbulence dans votre vie, ces épaisses ténèbres, hein, parfois ces désirs aussi avec la maladie, la bipolarité? Qu'est-ce qui vous fait qui vous donne cette énergie, cette force. Par exemple, reprenons ce pèlerinage national de prévention contre le suicide. D'où vous trouvez un peu cette force? Quel est le miracle?
Pour moi, c'est la grâce. Pour moi, c'est incompréhensible parce que...
Vous ne comprenez pas?
Non, avec le traitement
vous,
que je prends...
Et vous êtes là?
Avec le traitement que je prends, je ne devrais pas, par exemple, avoir de mémoire. Ma mémoire devrait être entachée. Et j'ai une très bonne mémoire pour tous les versets bibliques, pour tout ce qui est de l'histoire de chacun. De l'histoire de chacun. Et donc, pour moi, c'est un mystère. Et ma capacité à venir à l'eau,